Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Situation humanitaire en RDC. Le ACR plaide pour une collaboration avancée entre toutes les parties prenantes afin de répondre aux besoins des déplacements forcés dans le pays. Appel lancé hier à Kinshasa par la représentante du ACR devant le corps diplomatique accrédité en RDC. Le chômage est l'une des causes qui pousse certaines personnes à créer des églises pour profiter des offrandes des fidèles. C'est en tout cas le constat relevé hier aux travaux des États généraux de la justice à Kinshasa. Le représentant légal des églises de réveil du Congo propose au gouvernement plus d'efforts dans la création d'emplois pour contenir cette prolifération, dit-il. Et puis, l'invité de ce matin, Barthélémy Bato, coordonnateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour la zone Est, il nous parle des travaux d'actualisation du plan provincial de développement du Maniema, exercice 2024-2028, travaux tenus récemment et appuyés par le PNUD. Mais d'abord cette information, un accident de circulation a coûté la vie à 9 personnes sur la route poids lourd dans la commune de Limété à Kinshasa, c'était hier. Selon l'agence congolaise de presse qui cite la bourgmestre de Limété, un grand camion en panne de frein a fini sa course sur une voiture de marque Toyota et sur quelques motos en circulation sur cette voie. Les corps sont à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Madame, Messieurs, bonjour. Situation humanitaire en République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, ACR, plaide pour une collaboration avancée entre toutes les parties prenantes afin de pouvoir répondre aux besoins des déplacements forcés en RDC. Appel lancé hier à Kinshasa au cours d'un briefing trimestriel organisé à l'intention du corps diplomatique accrédité en RDC. Angèle Dikongé, représentante du ACR en RDC, a à cet effet exposé les dernières actualité de cette agence onusienne. Elle attire l'attention de tous sur la situation particulière que traverse le pays. On l'écoute au micro de Jeff Opela.
J'ai terminé mon dialogue avec les bailleurs de fonds tantôt en leur disant que la crise en RDC, malgré le fait qu'elle a trop duré, reste quand même très invisible. Pour l'OACR, cela fait plus de 10 ans que la RDC fait partie des 10 opérations les moins financées pour notre maison. Et je sais que c'est valable pour d'autres agences sœurs du système des Nations Unies. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que aussi cette pérennisation-là de la crise n'est pas faite pour aider qui que ce soit les personnes qui souffrent, pour qui cela devient vraiment invivable, ou que ce soit ceux-là comme nous venons à leur secours. Donc, par rapport à tout cela, la porte de sortie pour nous tous, c'est la paix durable pour l'Est du Congo, pour le Congo, pour que cela soit sanitaire pour ce pays.
Entre-temps, au Nord Kivu, le programme alimentaire mondial PAM a apporté une assistance alimentaire le week-end à plus de 23 000 ménages des déplacés de guerre et familles d'accueil dans les localités de Moussienene et Butembo. Selon Claude Kalinga, chargé de communication du PAM, cette aide comprend les légumineuses, des céréales, de l'huile végétale et du sel iodé. Il précise également que la distribution pour plus de 10 000 autres bénéficiaires du territoire de Lubero est prévue pour le jeudi 14 novembre. Claude Kalinga, chargé de communication du PAM, joint par André Kitenge.
Le programme alimentaire mondial a apporté une assistance alimentaire aux personnes déplacées internes à Butembo. À Moussienene, il a également apporté une assistance alimentaire aux personnes déplacées internes et aux familles d'accueil. Un total de 23 813 ménages, soit 160 247 bénéficiaires directs, ont reçu une ration alimentaire essentiellement composée de légumineuses, de céréales, d'huile végétale et de sel iodé. Donc 4 647 ménages à Butembo et 19 166 ménages à Moussienene. Les distributions pour les 11 556 ménages bénéficiaires attendus à Lubero auront lieu ce jeudi 14 novembre. C'est ici l'occasion pour le PAM de remercier tous les partenaires qui l'ont accompagné dans cet exercice. Il s'agit principalement des autorités locales, des leaders communautaires, des médias et de la société civile à travers ces différentes structures.
Pendant ce temps, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée des opérations et de la protection en RDC, Viviane Van de Perre, est arrivée hier à Beni au Nord-Kivu. Durant 2 jours, la chef adjointe de la MONUSCO va avoir des échanges avec les responsables des FARDC dans la zone, les autorités locales et des représentants de la société civile. Objectif, renforcer la collaboration avec ces différents acteurs en vue d'améliorer la protection des civils dans une région confrontée à des défis sécuritaires. Guylaine Kassassia, reportage.
Aussitôt arrivée à Beni, Viviane Van de Perre s'est rendue au quartier général du secteur opérationnel Sokola, un grand nom des FARDC à Païda, où elle a rencontré le commandant des opérations. Les échanges ont porté sur la coordination des opérations militaires en vue d'intensifier la lutte contre les rebelles des ADF, comme elle l'explique.
Nous sommes ici pour mieux soutenir la FARDC dans notre lutte conjointe contre le ADF. Nous sommes là pour la coordination qui va nous amener à un meilleur résultat parce que nous sommes là, comme toujours, en soutien de la FARDC.
Viviane Van de Perre est allée ensuite s'entretenir avec le maire de Beni, Jacob Nyofondo Tekodal. Ce dernier a salué la collaboration entre la MONUSCO et les autorités locales pour la sécurité des civils, notamment à travers un soutien logistique et diverses formations dispensées aux policiers et militaires de Beni.
La collaboration avec la MONUSCO va bon train. D'ici là, nous allons faire patrouille mixte avec la MONUSCO, rien que pour sécuriser la ville.
Viviane Van de Perre prévoit également de rencontrer les acteurs de la société civile ce mardi pour poursuivre ses échanges sur la question de sécurité et de protection des populations. Beni Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Nord-Kivu toujours, environ 5 meurtres signalés le week-end dernier, dont 4 civils et un policier, dans la partie nord de Goma et dans le sud du territoire voisin de Nyiragongo. Selon les sources diversifiées, ces personnes ont été tuées pour la plupart dans des actes de braquage ou cambriolage perpétrés par des bandits armés. Récit des faits, Bernardin Nyangi.
Ce lundi matin, c'est le corps sans vie et ligoté d'un civil qui a été retrouvé à Kabaya, groupement Munigi, territoire de Nyiragongo, indiquent les sources de la société civile locale. Elles ajoutent que, dans la même entité, 2 hommes ont été tués, l'un à Kiziba 2 et l'autre à Bugamba 2, groupement Mouja, la nuit de samedi à hier dimanche. Aux mêmes sources, c'est d'ajouter que, dans cette partie de la province où la population a du mal à fermer l'œil en raison des tirs entendus toutes les nuits, dans la nuit de vendredi à samedi, un policier a aussi été tué par des bandits armés dans le site des déplacés de Rousseau 1er. Dans le même site, ajoutent nos sources, au moins 17 cabanes de personnes déplacées ont été visitées et les occupants dépouillés de leurs biens, de valeur et argent. Pour finir, dans la soirée d'hier dimanche, c'est un autre homme qui a été tué à Ndosho dans la commune de Karisimbi, au nord de Goma, par des bandits inconnus qui l'ont dépouillé de son sac et autres effets personnels. Nos sources plaident pour le renforcement des mesures sécuritaires dans cette zone. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
À Bounia, pendant ce temps, 400 soldats des FARDC issus de l'unité commando ont clôturé hier une formation de 4 semaines au centre de formation militaire de Rwampara, dans la périphérie de la ville de Bounia. Il s'agit d'une nouvelle équipe formée par les casques bleus de la MONUSCO dans le but de renforcer les capacités opérationnelles des FARDC dans leur lutte contre les groupes armés locaux et étrangers en Ituri. Sadiki Aboubakar, reportage.
Ils sont au total 400 soldats en uniforme, enfilant des t-shirts de couleur verte et portant des insignes de l'unité commando des FARDC à l'extrémité gauche de la poitrine. Sur leur visage, on peut lire l'enthousiasme et la joie de finir cette formation. Dans la partie théorique, ils ont appris la géographie de l'Ituri, le maniement d'armes, les tactiques de tir et de combat. Ils ont également appris comment tendre des embuscades à l'ennemi et la communication radio. Ils ont été aussi outillés sur les notions des droits humains, la protection de l'enfant et des personnes déplacées. En plus de la démonstration sur le maniement d'armes, ces commandos ont également démontré des exercices d'endurance physique et les combats corps à corps. Le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboyan Kachama, exprime sa satisfaction.
Je suis l'homme le plus heureux. Il y a 2 semaines, vous avez vu que nous avions formé, n'est-ce pas, les forces spéciales. Aujourd'hui, ce sont les forces de couverture à qui on a appris d'abord les techniques de combat et tout. Et aussi les règles de comportement parce qu'ils vont évoluer là où il y a des déplacés, là où il y a des réfugiés.
Rappelons que les instructeurs étaient venus des différents contingents des casques bleus, mais aussi des FARDC. Bounia. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, poursuite hier des travaux des États généraux de la justice au centre financier de Kinshasa, la liberté de religion face à la prolifération des églises était l'une des thématiques au centre du débat lors de ces assises. Selon les panélistes et responsables de quelques communautés religieuses, le chômage est l'une des causes qui pousse certaines personnes à créer des églises pour profiter des offrandes des fidèles, une situation qui occasionne la cacophonie constatée dans ce secteur. Comme remède, le représentant légal des églises de réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses, l'archevêque Ejibaya Mampia, propose au gouvernement de multiplier les efforts dans le domaine de la création d'emplois en vue de contenir cette prolifération. Grâce à Mzati, reportage.
Au ministère de la Justice de tenir compte des différents textes qui existent déjà, respecter et faire respecter ces actes légaux relatifs à l'exercice des cultes, octroyer des différents privilèges à toutes les confessions religieuses. J'insiste sur ce point, en lieu et place d'avoir un traitement sélectif favorisant une ou deux confessions au détriment des autres.
L'archevêque Ejibaya Mampia propose également au gouvernement de doter les confessions religieuses des outils juridiques de régulation et des sanctions en cas de non-respect des règles et de limiter le nombre d'églises par avenue, mais aussi de faire un contrôle permanent des églises en collaboration avec les confessions religieuses. Dans la foulée, le révérend Eric Senga, porte-parole de l'église du Christ au Congo, s'interroge, je le cite, « C'est la justice qui est malade ou bien c'est le système ?» Fin de citation. Il propose des réformes à tous les niveaux. Pour sa part, Monseigneur Donatien Chole de l'Église catholique met l'accent sur les défis dans l'exercice du culte en RDC en préconisant la formation des hommes des dieux. Dans les buts, dit-il, d'éviter qu'on se retrouve avec des pasteurs qu'il appelle des charlatans dans la société.
Par ailleurs, droit d'auteur et protection personnelle de l'artiste congolais pour quelle réforme? C'était une autre thématique débattue hier aux États généraux de la justice à Kinshasa. Le principal intervenant à ce sujet, le pasteur Moïse Mbié, responsable de l'église Cité Bethel et musicien gospel, il a demandé au gouvernement de veiller sur la gestion active de la société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Ceci permettra, selon lui, d'installer un climat de paix autour de gestionnaires, connaître les besoins réels des artistes, mais aussi connaître les besoins de cette société. Moïse Mbié insiste sur le fait que les artistes doivent vivre de leur art, d'où son appel aussi aux autorités d'honorer les artistes de toutes les catégories de leur vivant. Le budget de la RDC est passé de près de 41 000 milliards des francs congolais, revu à plus de 44 000 milliards en 2024, à près de 50 000 milliards des francs congolais en 2025. Ce budget prévoit d'allouer plus de 48% des ressources aux investissements et près de 52% au fonctionnement de l'appareil étatique. D'après l'analyse des chiffres contenus dans les documents numéro 5, annexe explicative des prévisions des dépenses, ainsi que numéro 6 qui développe par titre d'estimation des crédits pour l'exercice 2025, les institutions du pays n'ont pas revu à la baisse le train de vie des institutions, à l'exception du Parlement qui réduit son budget de fonctionnement de 14%. C'est la première livraison d'une série de reportages que Radio Okapi vous propose à ce sujet. Michel Kifindangoy explique.
Sur les 10 grandes fonctions de la République, les services généraux de l'administration publique prennent la part du lion en consommant plus de 26% du budget. Ils sont suivis par les affaires économiques avec 25%, l'enseignement près de 18%, la santé plus de 13%, la défense 7% et la sécurité 6%. La protection sociale prend 2%, l'environnement, les logements ainsi que la culture, sport et loisirs ont chacun moins d'1% du budget. Concernant les prévisions des dépenses par institution, la présidence de la République consomme 1,94% du budget avec une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 40% et 12% des rémunérations par rapport à 2024. La primature, elle, consomme près de 3% du budget. 85% de cette enveloppe sont destinées au fonds de péréquation. Le fonctionnement des institutions et les rémunérations connaissent chacun une augmentation de 25% des dépenses par rapport à 2024. L'Assemblée nationale et le Sénat, qui prennent plus de 2% du budget, réduisent de 14% les dépenses de fonctionnement, mais augmentent de 7% l'enveloppe des rémunérations par rapport à 2024.
Et puis, la société civile Force Vive, à travers ses coordinations des 26 provinces, s'engage à travailler activement pour la paix, la sécurité et le développement de la RDC. Déclaration de Jean Bosco Lalo, premier vice-président et porte-parole du bureau de coordination de cette structure, en marge des échanges de ses acteurs clés et de la présentation du rapport des travaux du Forum national paix et sécurité en RDC, organisé hier à Kinshasa. Partant des expériences de la société civile Force Vive, il est question, dit-il, que les acteurs sociaux en présence rééditent les exploits du passé face aux enjeux de l'heure. Parmi les acteurs sociaux qui ont tour à tour échangé sur les efforts de leur organisation respective pour la consolidation de la démocratie au pays, on peut citer Mgr Donatien Cholet, le père Rigobert Minani, Jean-Baptiste Ndundu, Crispin Landa, Dani Singoma, Dieudonné Mouchagaloussa et bien d'autres.
Actualité internationale.
COP 29 à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Au premier jour hier, les pays du monde entier ont adopté tard dans la soirée les premières règles de l'ONU pour le marché controversé des crédits carbone, une étape clé pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. Ces dispositions étaient attendues depuis l'accord de Paris de 2015. La décision a été adoptée par consensus.
L'invité.
Il s'agit de Barthélémy Bato, coordonnateur du PNUD pour la zone Est. C'est dans le cadre du programme intégré d'appui à la décentralisation, gouvernance locale et planification de développement. Il nous parle des travaux d'actualisation du plan provincial du développement du Maniema pour l'exercice 2024-2028, travaux qui venaient de se clôturer à Kindu et qui ont connu l'appui technique et financier du PNUD. Barthélémy Bato est avec Florence Kizalunga.
Monsieur Barthélémy Bato, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi PNID décide d'accompagner la province du Maniema dans l'actualisation de son plan de développement 2024-2028?
Oui, tout d'abord, ce qu'il faut signaler est que le PNID est le partenaire du gouvernement en matière de développement. Le PNID a reçu la demande officielle de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, qui a souhaité avoir un accompagnement pour l'actualisation de son plan de développement provincial 2024-2028. Pourquoi? Parce que, pour rappel, le PNUD avait également accompagné la province du Maniema dans l'élaboration du plan de développement provincial 2019-2023. Et donc, c'était logique que le gouverneur de province recourt encore à l'expertise du PNUD pour l'aider techniquement et financièrement pour le processus d'actualisation de ce plan de développement provincial 2024-2028.
Pourquoi est-il important d'actualiser un plan de développement?
Oui, un plan de développement provincial, c'est un outil à la fois de plaidoyer, mais également un outil de gouvernance. Aussitôt qu'il a pris fonction pour une période de 5 ans, le gouvernement provincial devait avoir un document stratégique qui reprend tous les besoins prioritaires de sa population. Pour rappel, le plan de développement provincial est élaboré de manière participative, et donc le gouverneur de province avait souhaité avoir cet outil qui pourra l'aider avoir tous les besoins prioritaires exprimés par la population. Et donc, ça sera un outil de gouvernance, ce document stratégique qui prend en compte toutes les orientations stratégiques de sa politique en matière de développement pour les 5 prochaines années.
Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui a été enlevé ou bien corrigé ou bien ajouté à ce que vous avez fait?
Pas que l'ancien plan a vieilli. La planification en soi, elle est cyclique parce qu'on élabore un plan pour une de 5 ans. 5 ans après, il faut se mettre encore en cause et questionner les priorités qui sont contenues dans les plans, parce que 5 ans après, c'est un élément qu'il y a certaines actions qui ont été réalisées, il y a d'autres actions qui sont en cours et il y a de nouveaux besoins qui se sont créés. Et donc, c'est tout cela et le travail qui a été fait par les experts, les parties prenantes pendant les 3 semaines d'activité. Et il a fallu donc essayer de questionner pilier par pilier toutes les priorités qui étaient considérées. Il y a de cela 5 ans. Est-ce que ces priorités sont encore d'actualité ou pas? Et donc, c'est ce travail-là d'actualisation qui a été fait. Et ça a fait aujourd'hui que, certainement, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont venus.
C'est notamment?
Oui, notamment, il y a par exemple dans les secteurs d'infrastructure, il y a beaucoup de routes aujourd'hui qui ont été identifiées, qu'il faut encore réhabiliter, qu'il faut aujourd'hui reconstruire. Et beaucoup d'autres priorités, quoi. Donc, dans tous les secteurs, pratiquement, il y a certaines activités qui ont été réalisées et d'autres qu'il fallait actualiser. Et pour rappel, le gouvernement provincial, avant même cet exercice, il avait conduit un atelier d'évaluation du plan de développement provincial 2019-2023 2023. Cette évaluation a montré que beaucoup de priorités d'action qui étaient dans ce plan-là n'ont pas été réalisées à hauteur de moins de 20%. Voilà que ça valait la peine, c'est qu'il y ait une actualisation. Et c'est ce que les parties prenantes ont fait pendant les 3 semaines d'activité.
En ce qui concerne le budget, est-ce qu'on peut avoir une idée pour ces nouveaux plans?
Ah oui, la budgétisation, là aussi, il y a une évolution parce que l'ancien plan qui était évalué était peut-être trop ambitieux, parce que le PAPA, soit le plan d'action prioritaire, était évalué à peu près 900 millions de dollars. Maintenant là, je viens de voir ce qui est fait. La budgétisation paraît réaliste parce que le plan d'action prioritaire pour les 5 ans est budgétisé à hauteur de 200 millions de dollars. Donc c'est presque un quart du montant qui était dans l'ancien PAPA. Et je trouve que quand même c'est réaliste compte tenu des réalités, des niveaux peut-être de mobilisation de ressources actuelles au niveau provincial.
Aujourd'hui, ce n'est que la validation technique. Il y a encore d'autres processus qui vont suivre. Est-ce que PNID sera-t-il aux côtés du gouvernement provincial pour continuer à appuyer ces travaux?
Cela ne sera pas la fin, c'est juste un début. Parce que c'est bien d'élaborer un plan, mais le reste du travail reste la mise en œuvre de ce plan de développement provincial. Et le PNID, en tant que partenaire du gouvernement provincial, sera toujours aux côtés du gouvernement provincial du Maniema pour l'accompagner dans des processus de la mise en œuvre, du suivi de l'exécution de ce plan de développement provincial.
Monsieur Barthélémy Bato, je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.